Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors la semaine dernière, nous avions évoqué nous avions évoqué ce magnifique pays qu'est le Cambodge.
On a commencé à le visiter un peu, oui.
C'est ça. Bon. Et nous en étions restés au moment de l'émouvante découverte d'Angkor par le français Henri Mouhot. J'insiste bien sur le mot français.
D'accord.
Alors, ce 40e épisode d'Asialogie sera plus grave, chères auditrices et auditeurs. Oui. On va rester au Cambodge, mais cette fois, vraiment, pour commémorer la prise du pouvoir par les Khmer Rouges, donc en avril 1975.
D'accord.
Et ne pas oublier ce qui s'est passé à l'ambassade de France, à Phnom Penh, le 17 avril 1975, précisément.
Ok.
Donc, ça fait 50 ans. Une semaine. Voilà. Et en seconde partie, Didier, tu vas nous parler de l'année du lièvre, cette fameuse année 75, la BD d'un jeune Cambodgien qui nous raconte ce qu'il a vécu et ce qu'a vécu sa famille.
Mmh. Tout à fait. Bon, avant d'aller vers la bande dessinée, en fait, on va rentrer dans ce sujet terrible. Mais avant de rentrer sur ce sujet terrible, pardon, tu peux nous résumer quand même les périodes qui ont suivi la chute d'Angkor à la fin du XVe siècle à ce que tu vas évoquer après, pour faire le lien avec la semaine dernière.
Oui, c'est ça. Donc, on s'est arrêté au XVe siècle.
C'est ça.
Alors, quelques mots donc sur la période post-Angkor. Angkorienne, qui peut se résumer par la soumission du Cambodge aux pays voisins. On se rappelle qu'il avait été envahi par les Siamois, les Thaïlandais.
Les Thaïlandais, oui, voilà.
Et bien que le Cambodge ait été une grande puissance donc jusqu'au XVe siècle. Alors,
d'accord.
On se souvient donc que les Siamois avaient pris Angkor et qu'à la suite de cela, la cité s'était vidée de ses habitants.
Exactement.
Ils étaient partis pour vivre à la campagne dans d'autres zones du pays. Tout bêtement.
Oui.
Alors, le Cambodge va ainsi devenir un pays tampon entre le Siam, ça s'appelait la Thaïlande aujourd'hui, et puis le Vietnam.
Okay.
Et pour le peuple cambodgien, ce fut une période, on va dire, de troubles, parce que les rois Khmer, ça allait et ça venait. Ils faisaient tantôt appel à un pays, ils demandaient tantôt le soutien de la Thaïlande, tantôt le soutien du Vietnam. C'est pour ça que c'était un pays tampon.
D'accord, compliqué.
C'était un peu compliqué pour les Khmer.
Ok, bon, alors du coup, à quelle époque le Cambodge s'est fait coloniser par la France? Ça, on le savait.
Tu l'avais évoqué, donc
c'est ça.
De 1863.
Voilà.
Voilà, donc la France a signé le protectorat avec le roi Norodom.
Oui.
À sa demande.
D'accord.
Pour se protéger des Siamois et des Vietnamiens.
D'accord.
Et ce protectorat a permis à la France de tout contrôler de l'administration du Cambodge, tout en maintenant le pouvoir royal, qui était bien sûr alors devenu symbolique, mais le pouvoir royal, c'était le pouvoir royal, le roi restait à sa place.
Oui.
Voilà. Puis en 1887, le Cambodge sera incorporé à l'Union indochinoise aux côtés du Vietnam et du Laos, c'était donc l'Indochine.
Bien sûr.
Voilà, il va se passer là-bas ce qui s'est passé au Vietnam, la guerre en moins.
Oui.
Un peu de développement, beaucoup d'exploitation, avec l'émergence d'une élite khmer francisée et d'un début de nationalisme dans les années 30.
D'accord. Alors, par contre, on peut imaginer que la Seconde Guerre mondiale va aussi bouleverser tout ça.
Bien évidemment, Didier, tout à fait. Comme partout en Asie, avec le Japon qui va s'installer. Et puis, je dirais, avec la collaboration de la France, le gouvernement de Pétain, avec le Japon, qui va lui permettre de conserver le contrôle du pays.
D'accord.
Voilà. Et puis, en 1945, c'est la défaite du Japon, ce qui va donner l'occasion aux Cambodgiens, comme aux Vietnamiens, on se souvient, avec Ho Chi Minh, de proclamer leur indépendance, qui sera d'abord, comme au Vietnam, refusée par la France. Mais face à la résistance nationaliste et devant la pression diplomatique internationale, et puis ce qui se passe au Vietnam aussi, la France va accorder au Cambodge son indépendance pleine et entière en 1953.
Okay.
Voilà, sans trop d'effusion de sang, on va dire.
Hein. D'accord.
Il y a eu quelques manifestations, mais ça a été assez calme.
D'accord.
Alors, le pays va devenir une monarchie constitutionnelle et tiendra une politique de neutralité pendant la guerre froide. Je vais y revenir.
Okay.
Mais au Vietnam, depuis 1961, c'était la guerre contre les États-Unis.
Ouais.
Et peu à peu, le Cambodge va accueillir et aider les Vietnamiens du Nord pour leur ravitaillement.
D'accord, ouais, ok.
Et c'est comme ça que les idées communistes vont faire leur chemin au Cambodge. Et quant au roi Norodom Sihanouk, roi qu'on a bien connu, bien que proche du général de Gaulle et neutre dans la guerre froide, il va se rallier dans les années 70 au Khmer Rouge, espérant tant la paix que garder le pouvoir.
D'accord, oui. Alors, on peut imaginer que ça va un peu inquiéter les Américains, les Français et peut-être aussi les anticommunistes cambodgiens alors.
Ben oui, en effet, Didier, il y avait de fortes tensions entre les Cambodgiens nationalistes, pro-américains, les communistes vietnamiens et les Khmers rouges. Mmh. Tant et si bien que Lon Nol, le premier ministre en chef de l'armée, premier ministre de... C'est une monarchie constitutionnelle.
Je comprends, oui.
Du roi Norodom Sihanouk.
D'accord.
Lon Nol va organiser un coup d'État en mars 70. Ah. Alors, il était pro-américain, Lon Nol. Et voyait d'un très mauvais œil l'attitude conciliante du roi Norodom Sihanouk envers les communistes.
D'accord.
Il va donc profiter d'un voyage en Chine et en URSS du roi pour faire voter par le Parlement sa destitution.
Bah, tiens.
Voilà, et Lon Nol va devenir ainsi le chef d'État par intérim. Donc, je rappelle, pro-américain.
Oui,
et en octobre 70, la monarchie du coup a été abolie par Lon Nol et la République Khmer proclamée avec le fameux Lon Nol comme président.
D'accord.
Et avec en parallèle, forcément, la montée en puissance des Khmers rouges par rapport à face de ce Lon Nol pro-américain.
Okay.
Voilà, et ce sera le début d'une guerre civile dévastatrice jusqu'en 1979.
D'accord. Alors, il est devenu quoi, le roi Norodom Sihanouk? Il va arriver à Lon Nol aussi. Lui arriver quoi à ces deux personnages-là?
Alors, après avoir été destitué, Norodom Sihanouk va s'exiler en Chine et il va s'allier aux Khmer Rouges.
D'accord. Ah, cool.
Voilà, au début, ça pouvait s'entendre, on va dire.
Oui.
Il croyait aux idéaux révolutionnaires, Norodom Sihanouk, et il pensait garder le pouvoir en formant un gouvernement provisoire avec les Khmer Rouges, soutenu par le Vietnam et la Chine. Il y avait
quand même
des gros soutiens au début.
J'imagine.
Alors, les forces gouvernementales de Lon Nol, soutenues par les États-Unis, vont bien sûr affronter les Khmers Rouges. C'était la guerre froide, ne l'oublions pas. Et donc, nous n'oublions pas non plus que les États-Unis, entre 69 et 73, vont larguer des milliers de tonnes en Indochine, particulièrement sur le Cambodge, toutes les zones communistes, le Cambodge là particulièrement, sur toutes les positions communistes, en tuant comme d'habitude de nombreux civils, ce qui va bien évidemment conduire beaucoup de Cambodgiens à rejoindre les Khmers Rouges
en réaction,
qui prendront donc le pouvoir en avril 75.
Nous y voilà.
Alors, le leader des Khmers Rouges, c'est Pol Pot, qui va alors instaurer un régime communiste et surtout ultra-totalitaire et dévastateur.
Et, voilà.
Et quant à Sihanouk, les Khmers vont l'abandonner très vite et il restera en exil.
D'accord. Alors, donc, Pol Pot, c'est pas un nom qui m'est inconnu, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît?
Oui, on pourra en parler peut-être plus longuement une autre fois. Il s'appelait en fait Salot Sar.
D'accord.
C'était le leader de cette révolution et il a vécu à Paris, Pol Pot. Oui, comme Ho Chi Minh,
C'est pour ça que je dis ça, oui.
Entre 49 et 53, en 1953, grâce à une bourse qu'il avait eue pour étudier l'électricité.
Okay.
Mais en fait, durant cette période, il s'est surtout intéressé à la politique. Et il avait, un peu comme Ho Chi Minh, rejoint le Parti communiste français et fréquenté les cercles intellectuels marxiste et tiers-mondiste français. Et ce sera à Paris donc qu'il va développer avec ses amis, qui l'accompagneront dans sa lutte, sa vision d'une révolution radicale qu'il va appliquer au Cambodge.
D'accord.
Son objectif était simple, c'était d'instaurer une société agraire égalitaire et totalement purifiée des influences étrangères.
Oui.
Sa politique de terreur a provoqué le génocide d'environ 2 millions de Cambodgiens.
2 millions.
sur une population de 9 millions à l'époque. D'accord. C'est énorme la proportion. C'est 20%.
Le ratio est
oui, c'est énorme. Et bah, il est l'un des dictateurs les plus meurtriers du XXe siècle.
Il peut hériter de ça malheureusement. D'accord.
Voilà. Bon, je propose une pause musicale et je crois, Didier, que tu nous as prévu un des chanteurs les plus connus du Cambodge et c'était avant les Khmers Rouges.
C'est ça.
Et il s'appelle. Comment il s'appelle, Didier?
Ah, là, je ne l'ai plus en tête.
Tu l'as plus. Ah, c'est Sin Sisamut.
Oui, c'est mieux que ce soit toi qui le dises.
Sin Sisamut.
C'est parti. Ah oui, alors là, on est couleur locale quand même. Hein.
Oui, dans les années 60.
60 par là ? D'accord,
oui,
ok.
Oui, oui.
Bon, alors, vous êtes quand même toujours avec Asialogie sur Radio Alpa. Et alors, maintenant, on va reprendre notre histoire, celle de 1975 et ce qui s'est passé à l'ambassade de France le 17 avril.
Oui.
1975.
Oui, Didier, c'est un événement qu'on a un peu oublié, en
ouais,
tout cas.
Moi, je ne le connaissais pas.
Voilà, il est peu connu. Alors là, on en a un petit peu reparlé, puisqu'on commémore les 50 ans, forcément. Mais je tenais vraiment à en parler, parce que c'est quand même un jour terrible pour la diplomatie. Mmh. Voilà, et c'était le jour de la prise de Phnom Penh,
oui.
Donc le 17 avril, c'était il y a 50 ans, et peu d'entre nous connaissent cette tragique histoire qui a duré 3 semaines.
D'accord.
On est donc le 17 avril, Phnom Penh s'était déjà vidé de la grande majorité de ses habitants qui étaient tous en fuite pour la campagne, et toutes les ambassades avaient été abandonnées. Quand je dis toutes, c'est toutes.
Oui.
Hein, alors il y a l'histoire de l'ambassade américaine, le film me déchirure et tout ça, mais c'était avant cette histoire.
D'accord.
De l'ambassade de France.
Okay.
Donc, il n'en restait qu'une, c'était la nôtre.
D'accord.
L'ambassade de France restait ouverte avec quelques fonctionnaires,
oui.
deux gendarmes,
oui,
je précise,
oui,
sous la responsabilité d'un seul vice-consul qui s'appelait Jean Dirac.
D'accord.
Alors, précision, un vice-consul n'est pas un diplomate. En fait, c'est un fonctionnaire équivalent à un secrétaire de mairie qui s'occupe des formalités administratives de ses ressortissants, les élections, les mariages, les papiers d'identité, etc.
Je vois.
Voilà. Et donc, Jean Dirac, il s'est occupé de tout, en fait. Et devant donc les troupes Khmer Rouge, alors je précise, les troupes Khmer Rouge, c'était des ados, pour la plupart, habillés en noir, avec une écharpe traditionnelle blanche et rouge autour du cou.
Mmh.
Et il n'y avait plus que ça dans les rues, ces jeunes soldats Khmer Rouge. Tous les Occidentaux avaient fui,
d'accord.
La plupart par hélicoptère, ambassadeurs compris, on peut imaginer le chaos.
Ouais.
Alors quand je dis tous les Occidentaux, c'était presque tous, puisqu'il en restait quelques-uns. Et c'est donc cette foule, quand même, d'expatriés de toute nationalité,
d'accord.
De binationaux, de Cambodgiens, qui a afflué vers ce qui semblait être l'unique lieu encore protégé de la violence, l'ambassade de France.
D'accord.
Alors, on estime qu'il y a eu entre 1400 et 2000 personnes qui s'y sont réfugiées. On imagine, c'est une grande maison. Hein,
oui, bien sûr.
Avec un parc, mais...
Okay. Mais alors, pourquoi l'ambassade de France est-elle restée ouverte?
Tout simplement pour protéger ses ressortissants. Elle savait qu'il restait encore du monde. Et puis ne pas oublier qu'avant la guerre, le Cambodge était sous protectorat français, que la France avait de très bonnes relations avec son roi.
Oui, ça a dû avoir une influence, tout ça.
C'est ça. Et qu'à travers lui, la France espérait aussi nouer de bonnes relations avec le régime des Khmers Rouges.
Okay, oui, je comprends.
Soutenu par la Chine. Nous, on était, je dirais, amis avec la Chine.
Oui,
ne l'oublions
pas. Bien sûr, bien sûr.
Hein. Et ce qui a fait que les Khmers Rouges avaient toléré que l'ambassade de France reste ouverte.
D'accord.
Quand même.
Okay.
Et rester ouverte pour l'ambassade de France montrait que la France ne tournait pas le dos à ses partenaires, ni aux valeurs diplomatiques.
D'accord.
Alors, il fallait aussi avouer qu'il était peut-être probablement trop tard pour organiser une évacuation complète par les airs.
D'accord.
Et les derniers vols humanitaires étaient partis, les routes coupées, donc il n'y avait pas tellement de solutions.
Ils étaient bloqués, malheureusement.
Ils étaient quand même bloqués.
D'accord.
Et donc, dès le 18 avril, les Khmers Rouges vont encercler l'ambassade et vont exiger que tous les Cambodgiens, y compris ceux qui avaient la nationalité française, leur soient remis. Sauf les femmes cambodgiennes mariées à des Français et leurs enfants.
D'accord.
C'est terrible, hein, les Cambodgiens, sauf les femmes mariées à des Français et leurs enfants. Et en cas de refus, l'ambassade aurait été prise d'assaut et tous ses occupants exécutés. Donc voilà ce qu'avait eu à gérer Jean d'Irak.
Genre de choses que
il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus que le téléx pour communiquer. Donc, on peut deviner combien la décision a été difficile à prendre devant la survie des uns qui dépendait de l'abandon et de la mort des autres. Faut être clair.
Tu m'intrigues, que s'est-il passé ensuite? Ça va se terminer comment, cette affaire?
Alors, après des tergiversations, le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président de l'époque, prendra la décision terrible d'abandonner les Cambodgiens. C'est important de dire, qu'est-ce qu'on aurait fait?
Je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas là-dessus.
C'est ça, on ne s'aventurera pas, mais c'est terrible comme histoire. Et parmi les personnes remises figuraient les ministres de l'ancien gouvernement,
d'accord,
ceux de l'ONOL notamment, et surtout quand même la princesse Manivan Fanivong, l'épouse même du prince Sihanouk, et leurs filles qui ont été exécutées dans les jours qui ont suivi. C'est quand même une histoire, c'est épouvantable, ils se sont tous fait descendre
Je comprends.
Et pendant 15 jours, bien évidemment, l'ambassade s'était transformée en camp de survie, les conditions étaient horribles, vu la promiscuité, la chaleur,
j'imagine,
le manque d'eau, de nourriture, l'absence d'informations, puis toute l'incertitude les concernant. Ils ont bu l'eau des climatiseurs, c'est terrible.
On imagine bien.
Oui. C'est terrible. Alors l'évacuation, les Khmers ont quand même accepté qu'ils évacuent puisqu'ils avaient livré les Cambodgiens.
Ils ont respecté le contrat.
Et donc le 30 avril, entre le 30 avril et le 6-5, l'ambassade a été évacuée. Les Khmers avaient organisé deux convois de camions à quelques jours d'intervalle pour conduire les réfugiés à la frontière thaïlandaise, soit 400 kilomètres, 4 jours de trajet et je dirais de calvaire. Avant d'être enfin en sécurité, parce qu'ils se demandaient sans arrêt s'ils n'allaient pas être descendus d'une route. Et ces survivants, on peut le dire, de l'ambassade, ont vécu avec une culpabilité qui ne les quittera jamais.
Ah oui, ça je suppose, oui.
Voilà.
Mais alors, comment le Cambodge a pu retrouver la paix alors?
C'est grâce à l'intervention de l'armée vietnamienne.
D'accord.
Alors au départ, les relations entre les Khmers et les Vietnamiens communistes étaient cordiales.
Oui.
Mais très rapidement, des tensions frontalières vont éclater avec des incursions militaires des Khmers Rouges au Vietnam. Ça va causer des milliers de morts vietnamiens, des civils.
D'accord.
Et face à ces provocations, et puis aux crimes du régime de Pol Pot, les Vietnamiens savaient ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, le Vietnam va finir par intervenir militairement le 25 décembre 1978.
D'accord.
Et en quelques semaines, les Khmers Rouges seront renversés. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Oui, d'accord.
Donc il y aura un gouvernement pro-vietnamien qui sera installé. Alors cette occupation a été très 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 controversée, mais elle aura vraiment mis fin au massacre pour amorcer une reconstruction. Donc c'est quand même tant mieux que les Vietnamiens intervenus.
Quand un massacre est arrêté, c'est une bonne chose.
C'est ça. Et en 91, les accords de Paris seront signés et en 93, des élections libres organisées sous l'égide de l'ONU.
93, d'accord.
Voilà, c'est récent.
Oui,
ça va rétablir la monarchie constitutionnelle de Norodom Sihanouk. Hein. Okay. On parlera de Norodom Sihanouk, ouais. Qui mérite, il a une vie quand même absolument, un destin incroyable.
Okay, okay.
Et puis ce sera l'élection comme une monarchie constitutionnelle, hein, donc d'un parti, c'est le Parti du Peuple Cambodgien.
Okay.
Et bah, je dirais, depuis 1993, le Cambodge vit une stabilité politique relative sous un régime plutôt autoritaire.
Ah.
Alors c'est un pays en pleine transition, hein, oui. Encore marqué par son passé traumatique, oui. Avec un développement rapide, mais des défis majeurs comme les inégalités sociales, sa gouvernance autoritaire et les enjeux de l'environnement. Mmh. Alors je vous recommande vivement le visionnage du bouleversant documentaire de France TV.
Oui.
Qui m'a inspirée pour cette chronique.
Hein,
ça s'appelle « Sous la menace des Khmers rouges, la chute de l'ambassade de France ». Hein, j'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois en visionnant ce documentaire. Je vous recommande aussi la lecture du livre « Le portail » de François Bizot, qui était dans l'ambassade de France. Il servait d'interprète, hein, aux Khmers rouges.
Ah oui.
Et il était otage dans l'ambassade de France. Enfin, c'est otage, oui, on peut dire ça.
Oui.
Et de revoir le film de Roland Joffé, « La déchirure ». Ça c'est l'histoire de l'évacuation de l'ambassade américaine et d'un journaliste cambodgien qui a eu le prix Pulitzer ensuite. Et puis de vous plonger dans toute l'œuvre de Ritipan, un cinéaste français d'origine cambodgienne.
Ok.
Qui raconte son histoire, c'est terrible. Et puis, bien sûr, dans l'œuvre de Tian dont tu vas nous parler,
et
Didier.
Voilà, ça fait beaucoup de devoirs à
voilà.
La maison, ça.
Donc on s'écoute un petit morceau d'une pause musicale avant de parler de Tian.
Oui, on va prendre une petite respiration, ça va pas nous faire
on en
mal.
A besoin. Enfin, c'est pas qu'on a oublié, on n'a pas su lire le nom de ce chanteur cambodgien.
Oui.
Bon Didier, parle-nous de cette BD, L'année du lièvre, écrite et dessinée par Tian.
Oui, c'est ça.
Un homonyme du peintre bien connu du
Cambodge. Oui, les
qui n'a rien à voir avec
autre,
le Cambodge.
Mais c'est pas le même, oui. Voilà, c'est ça.
Alors, donc, Tian, c'est qui?
Alors, Tian, c'est un peintre et auteur de bande dessinée franco-cambodgienne. Il est né donc le 20 avril 1975, hein, on n'est pas loin des mêmes dates, à Phnom Penh.
Ah bah oui. Il est né
Il est surtout connu pour son œuvre autobiographique « L'année du lièvre », une trilogie sur le génocide cambodgien et l'exil, justement, avec ses parents. Tian a donc vécu, alors qu'il était bébé, qu'on vient de lire, la prise du pouvoir des Khmers Rouges, puis l'exil forcé dans un village. Sa famille faisait partie du milieu bourgeois et intellectuel de Phnom Penh, donc on imagine bien. Son père était médecin. Dès l'arrivée des Khmers Rouges, sa famille a été forcée d'évacuer Phnom Penh, puis elle a été envoyée en rééducation à la campagne. J'adore ça. En 1979, la famille va réussir à fuir en Thaïlande, et puis il va rejoindre un camp de réfugiés. Et à l'été 1980, Tian et sa famille vont immigrer en France comme réfugiés politiques. Tian avait 5 ans.
Alors, où va-t-il vivre? Comment va-t-il arriver à faire cette BD?
Alors, sa famille s'était installée dans la région lyonnaise, il va donc y grandir, il y vit toujours, il va étudier à l'école des arts décoratifs de Strasbourg, dont il sort diplômé en 2001, et cette même année, il est retourné au Cambodge pour la première fois, et il avait été invité par une ONG pour animer des ateliers de dessin, notamment pour les enfants sourds et ou aveugles. De retour en Cambodge, donc il a 26 ans, et ce sera un tournant personnel, on peut l'imaginer, fondamental pour la suite de sa carrière. Puis sur le plan professionnel, il a travaillé pour la presse jeunesse, notamment chez Baya, et il enseigne les arts plastiques. Voulant connaître son histoire, il va réunir des témoignages familiaux sur les Khmers rouges. Il va réaliser des entretiens avec ses proches. Il fera de nombreux voyages au Cambodge pour enquêter. Et cette démarche aboutira justement à la trilogie de l'année du lièvre, éditée de 2011 à 2016 chez Gallimard.
Alors, que raconte cette trilogie, Didier ?
Alors, elle retrace l'aventure de sa propre famille, la vie de ses parents et de quelques proches qui ont réussi à survivre pendant ces 5 années terribles que tu viens de nous parler. Il semblait important à Tian de réaliser cette BD pour réactiver une mémoire et témoigner. Il voulait partager ça à la fois avec la communauté cambodgienne et puis ceux qui ne l'ont pas vécu. Cette BD, elle s'appelle donc, comme on l'a déjà dit, l'année du lièvre, parce que en 1975, selon l'horoscope chinois, Khmer, c'est l'année de ce signe.
Mais oui, c'est
donc,
vrai.
Donc, dans sa BD, il explique qu'à l'époque, il y avait une confusion totale dans la population. Certains croyaient à l'idéologie marxiste des Khmer rouges qui voulaient rendre la société plus juste,
oui,
supprimer la corruption,
début, enfin,
toujours comme toujours. On connaît la chanson, si j'osais. Tout le monde doutait et se méfiait à cause de la propagande et les rumeurs. Et puis, certains Khmer rouges se montraient humains et certaines zones étaient moins violentes que d'autres. Tian a été inspiré par sa BD, la BD Mouse. Alors ça, on connaît pour la
Shoah. Excellente
BD. Oui, très très belle BD que je conseille, qui lui a permis de comprendre que la BD était le médium idéal pour partager son témoignage avec le plus grand nombre. Alors ça lui a pris 3 ans, dont 1 an et demi pour le premier tome.
D'accord. Alors est-ce que tu peux nous résumer
vite fait, oui. L'année du lièvre.
Oui, parce que c'est fini presque, quasi-allégie, dit-il.
L'année du lièvre retrace en 3 tomes l'histoire de la fuite de la famille de Tian à travers le Cambodge de 75 à 79, puis leur exil vers la Thaïlande et la France. C'est une œuvre à la hauteur d'enfant, profondément humaine, sobre, forte. Le premier tome s'appelle Au revoir Phnom Penh. On y découvre le choc de la révolution, la terreur, les premières violences et la fuite de la famille. Le tome 2, appelé Ne vous inquiétez pas, on découvre comment sa famille va survivre à la campagne. On voit les purges, la famine, la pression idéologique et comment le père a protégé les siens en cachant ses noms d'identité. Et pour finir, le tome 3, Un nouveau départ. Tian nous raconte la fin de la période des Khmers rouges. On y suit sa famille dans le périple à travers le Cambodge qu'ils essayent de retrouver une vie normale, puis de sortir du pays. Tian, il raconte l'arrivée en Thaïlande, la vie dans les camps des réfugiés, etc., etc. Alors, cette BD est accessible, c'est un bel outil pédagogique qu'on vous conseille à Asialogie pour découvrir et aborder le génocide cambodgien.
On la trouve partout et puis
il y a moyen.
Il y a des interviews de Tian, j'ai vu sur le net. Bon, Asialogie, c'est fini, les amis. Oui. Didier, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Vous pouvez nous réécouter, bien évidemment, le samedi à 9h30, le mercredi à 13h et en podcast, toujours sur Radio Alpa. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.
À la semaine prochaine.
Спасибо.